Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. En ce mardi, nous sommes le 15 septembre. Une enseignante du Rhône comparaît aujourd'hui devant le tribunal de Villefranche. Elle est jugée pour homicide involontaire. Nous verrons pourquoi dans cette édition. Deux personnes supplémentaires décédées hier dans le département. 685 morts dans le Rhône du Covid-19, ce sont les derniers chiffres. 12 décès survenus également ces derniers jours au sein d'une maison de retraite, la Pergola, une EHPAD de Bourg-en-Bresse. Ces décès sont là aussi attribués à une contamination à la Covid-19. Depuis vendredi, la Loire est passée en zone rouge et les premières mesures tombent. En effet, le masque sera rendu obligatoire à partir de demain sur toute la ville de Saint-Étienne. Un pic de chaleur exceptionnel pour la saison, même si les records n'ont pas été battus hier pour un mois de septembre. On a tout de même enregistré 35 degrés à Lyon et ça va continuer. Des mesures d'aide pour faire face à la crise sanitaire ont été décidées hier par la commission permanente de la métropole qui se réunissait pour la première fois. À la découverte du Relais dans cette édition, une entreprise qui récolte des vêtements avec deux objectifs, l'insertion professionnelle et l'engagement écologique. Et puis le passage du Tour de France a occasionné l'enlèvement de 350 véhicules qui ont été conduits en fourrière.
Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald de Bouchon.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce quart d'heure lyonnais. Une enseignante du Rhône comparaît ce mardi devant le tribunal correctionnel de Villefranche-sur-Saône. Elle est jugée pour homicide involontaire. En mars 2018, un élève de 6 ans est décédé alors qu'elle lui a donné des crêpes, alors qu'il était allergique aux produits lactés. Les faits se sont produits à l'école de Lima, dans le Beaujolais. L'allergie avait pourtant fait l'objet d'un projet d'accueil individualisé, un PAI, document écrit spécifiant les troubles de la santé d'un élève, ses éventuels besoins thérapeutiques et les consignes à suivre en cas de problème. Pour la défense, le PAI n'alertait pas suffisamment sur les dangers encourus par la victime. Deux personnes supplémentaires sont décédées hier dans le département, ce qui porte le nombre de victimes du Covid-19 à 685 dans le Rhône depuis le 1er mars. Les hôpitaux de la région ont dénombré 25 nouveaux patients en 24 heures. 286 patients y sont hospitalisés. Les indicateurs se dégradent également dans les services de réanimation avec 6 admissions supplémentaires. 44 personnes sont en soins intensifs. En revanche, le taux d'incidence des 7 derniers jours est à la baisse par rapport au début du mois. Il était de 133 cas pour 100 000 habitants entre le 31 août et le 6 septembre. Il est actuellement de 55 cas pour 100 000 habitants. 12 décès survenus ces derniers jours au sein de la maison de retraite La Pergola à Bourg-en-Bresse. C'est le dernier chiffre. Des décès bien sûr attribués au Covid-19. Le bilan était de 5 morts ce week-end. Confronté à plusieurs cas suspicieux, la maison de retraite appartenant au groupe privé Emera s'était pourtant reconfinée dès le 24 août. Des unités Covid ont été mises en place pour isoler les personnes contaminées des autres résidents. Les visites des familles ont été suspendues temporairement dans cette EHPAD de Bourg. Un soutien psychologique a également été déployé dans l'établissement. Depuis vendredi, la Loire est passée en zone rouge et les premières mesures tombent. La préfecture a décidé en effet de rendre obligatoire le port du masque dans toute la ville de Saint-Étienne, alors que seulement le centre-ville était concerné pour l'instant. Mais d'autres communes du département sont aussi concernées. Ainsi, dès demain, mercredi, il sera également interdit de sortir sans masque à Roanne, au Coteau, à Mably, Riorges ou Firminy. Les contrôles seront renforcés dans les transports collectifs et les établissements recevant du public afin de s'assurer que la mesure est appliquée.
Lyon demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville.
La commission permanente de la métropole s'est réunie hier pour la première fois depuis les élections. Elle a adopté une série de délibérations pour faire face à la crise sanitaire. Une prime exceptionnelle pouvant aller jusqu'à 1 000 euros pour une enveloppe globale de 2 millions d'euros sera versée aux salariés du secteur médico-social. La métropole met également en place un fonds de soutien d'une enveloppe maximale d'1 350 000 euros pour compenser les surcoûts générés par la crise. 300 acteurs du territoire sont mobilisés pour lutter contre la pauvreté. Une enveloppe de 7,3 millions d'euros, dont la moitié est prise en charge par la métropole, a été décidée en mettant l'accent sur les violences conjugales et intrafamiliales, mais aussi sur la question de l'accès au logement, l'insertion par l'emploi et la formation des travailleurs sociaux. Enfin, une subvention de fonctionnement exceptionnelle d'un montant de 200 000 euros pour l'organisation de la 12e édition du Festival Lumière. Il s'agit là de compenser le retrait de certains acteurs privés en raison de la crise. Un pic de chaleur exceptionnel pour la saison. Des températures de plus de 30 degrés sont attendues dans de très nombreuses régions durant toute la semaine. Le département du Rhône n'est pas en reste. On a ainsi enregistré 35 degrés hier à Lyon, soit un écart de plus 12 degrés avec les normales saisonnières. Le record mensuel, 35,8 degrés, le 5 septembre 1949, n'a toutefois pas été battu. Une baisse toute relative est prévue dans les prochains jours, même si la semaine sera très chaude en journée, 30 à 34 degrés. À l'université Jean Moulin à Lyon 3, on a décidé de renvoyer les étudiants chez eux. Dès qu'une salle fait plus de 30 degrés, elle est évacuée, explique l'université. Avec les fortes chaleurs attendues ces prochains jours, la direction a pris les devants, annonçant que pendant au moins deux jours, lundi et mardi, les amphithéâtres, tant à la manufacture des tabacs que sur les quais du Rhône, resteraient inoccupés, les cours étant reportés ou organisés à distance. Grégory Doucet va rencontrer le ministre de l'Intérieur d'ici à la fin du mois. À l'ordre du jour, le souhait du nouveau maire de Lyon d'un renfort des effectifs de police nationale. Grégory Doucet va demander 200 policiers en plus. 10% de policiers municipaux supplémentaires doivent également être recrutés, soit une cinquantaine de personnes. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé, lui, la généralisation des caméras piétons équipant les forces de l'ordre pour le 1er juillet 2021, une technologie censée notamment lutter contre les contrôles au faciès.
Lyon demain, média agitateur d'idées.
Avec deux axes forts, celui de l'insertion professionnelle et l'engagement écologique, le Relais est une entreprise qui récolte des vêtements donnés à travers 22 000 conteneurs répartis sur toute la France. Présentation au micro de Benjamin Noël.
Donner ces vêtements qu'on ne souhaite plus porter pour pouvoir créer de l'emploi. Un lien de cause à effet, loin d'être irréalisable, c'est ce que fait déjà le Relais, présent sur plus de 7000 communes, ayant créé plus de 2200 emplois depuis sa création il y a 30 ans. À Villeurbanne, au centre de collecte, c'est une activité à plein régime depuis le confinement où les Lyonnais en avaient profité pour faire du tri dans leurs armoires. Présentation de cette entreprise d'insertion avec le responsable adjoint du Relais 69, Xavier Herrero.
Le Relais est né il y a 36 ans à Bruay-la-Bussière, donc dans le nord de la France, sur l'idée de notre président actuel, Monsieur Duponchel, qui était bénévole dans une communauté Emmaüs et voyait énormément de jeunes arriver dans cette communauté sans compétences, sans qualifications, dans une galère avec de grosses difficultés. Il s'est dit que c'est vraiment inadmissible que la société puisse autant exclure certaines personnes. Donc il a essayé de trouver une idée pour créer de l'emploi, donner une activité à toutes ces personnes en difficulté. Et c'était la collecte des textiles. Donc elle a commencé de manière très amateur, en collecte porte à porte avec une petite camionnette. Et puis de fil en aiguille, on s'est développé, on s'est structuré. Et maintenant, on compte quasiment 3000 salariés en France, au Portugal et en Afrique.
Oui, parce que si on va évoquer plusieurs engagements du Relais, le point fort, c'est tout de même la création d'emplois.
Exactement, c'est la vocation première de l'entreprise. Alors la collecte des textiles, le tri et leur valorisation, évidemment, nous sommes professionnels, on sait faire. Mais la vocation première, c'était trouver un moyen de pouvoir créer de l'emploi. On met vraiment l'emploi, la création d'emplois pour les personnes en situation d'exclusion au cœur de notre projet. C'est pour ça que beaucoup de centres, le Relais, il y en a une trentaine en France, ont l'agrément entreprise d'insertion. Donc on travaille avec l'État, avec Pôle emploi, avec les services de l'État, pour justement, après identification de certains profils de personnes en grande difficulté, un chômage longue durée, un primo-arrivant, quelqu'un qui, pour X raisons, des galères de vie, qui ont amené à une situation où on se retrouve un peu en marge de la société, on essaye de miser sur eux, de les accompagner pour, au bout de 2 ans maximum, arriver à leur redonner une dignité et surtout une place dans la société.
Alors, une question toute simple, pourquoi donner ces vêtements?
Il y a différents enjeux. Donc, il y a une dimension évidemment environnementale, des développements durables. Les vêtements qui se retrouvent en ordure ménagère ne seront pas valorisés, et pourtant ce sont bien des matières premières. Les récupérer, les recycler ou les réemployer, c'est une économie de matière. Des enjeux évidemment financiers, parce que forcément si on recycle ces matières, on n'a pas besoin de les produire ailleurs, donc on fait faire des économies à l'ensemble de la planète, si je peux dire, ainsi que pour les collectivités qui vont forcément diminuer leur tonnage d'ordures ménagères à incinérer ou à enterrer, et donc faire au final un gain pour aussi la population qui paiera moins d'impôts si forcément on diminue le tonnage de déchets.
Comment on peut donner ces vêtements? Est-ce qu'il y a des contraintes à savoir avant de donner dans des conteneurs?
Pour donner ces vêtements, c'est très simple. Nous, on fait en sorte que le service soit disponible pour l'ensemble de la population. C'est pour ça qu'on essaye de faire un maillage assez serré de tous nos conteneurs pour récupérer les vêtements. Vous faites votre tri chez vous. Des choses que vous ne mettez plus qui sont en parfait état, mais aussi des choses qui pourraient être abîmées. On a les deux filières, une filière de réemploi, de recyclage. Nous, on s'attend à ce que le linge soit propre et sec. C'est vraiment une condition, la condition primordiale pour donner. Et après, vous conditionnez ça dans un sac bien fermé, pas trop gros. Donc un sac de 30 à 40 litres maximum. Et puis vous pouvez y mettre, bien sûr, tout type de textile, chaussures, linge de maison, petite maroquinerie.
Une fois que le vêtement est placé dans le conteneur, que devient ce vêtement ?
Notre métier, c'est faire partir des tournées tous les matins, donc une dizaine de camions qui partent collecter manuellement l'ensemble de ces conteneurs. D'où l'intérêt de mettre aussi dans les sacs. Hein, c'est aussi un soutien à la personne qui collecte. Et ça lui facilite grandement le travail de ne récupérer que des sacs quand il n'y a que du vrac dans un conteneur. Forcément, il prend bien plus de temps en termes de manutention pour tout reconditionner. Il récupère tout ça, il finit sa tournée. Ici, c'est acheminé chez nous. On reconditionne en big bag ce qu'on appelle des curons pour faciliter et optimiser les transports sur nos différents centres de tri. Au niveau du centre de tri, tous les sacs vont être ouverts, vont être triés grossièrement au début en fonction de la matière, du type de vêtements, etc. pour après avoir un tri plus fin et orienté sur nos deux grandes filières, à savoir le réemploi. Donc où on commercialisera la crème, ce qu'on appelle la crème, c'est dans notre jargon, c'est vraiment les vêtements de haute facture, très propres, qui pourraient être largement reportés par quelqu'un, qu'on va commercialiser dans nos boutiques Dingfringues, qui sont des friperies solidaires. On en a environ un peu plus de 80 sur toute la France. On va également commercialiser ce linge à l'étranger, notamment dans nos centres Le Relais, qui sont en Afrique. On a une implantation en Afrique, au Burkina Faso, Sénégal, Madagascar. On est aussi installé au Portugal. Et pour tout le reste, pour tous les vêtements qui ne pourraient plus être reportés par quelqu'un, ils vont alimenter la filière de recyclage, à savoir notamment pour créer notre isolant thermique et acoustique, l'isolant métis.
Et évoquons la présence du relais sur Lyon et ses environs. Combien de conteneurs sont présents sur le territoire métropolitain ?
Le relais 69, on possède à peu près 550 conteneurs, mais il n'y a pas que la métropole, on va aussi dans l'Ain, un petit peu en Isère, voire jusqu'en Savoie. Sur la métropole de Lyon, on doit être aux alentours de 300 conteneurs, plus une présence en déchetterie, sur certaines déchetteries de la métropole lyonnaise. Ça représente environ chaque année 2500 tonnes de linge qui sont issues de la métropole de Lyon.
Xavier Herrero est le responsable adjoint du relais 69, dont le centre de collecte se situe à Villeurbanne. Le relais, c'est le point de rencontre du don de vêtements et de la création d'emplois. L'entreprise d'insertion permet également de réutiliser les textiles en les vendant dans des boutiques solidaires, en France comme sur le continent africain, ou encore en les recyclant comme pour construire des isolants.
Merci Benjamin. Durant 3 jours, ce sont pas moins de 350 véhicules qui ont été enlevés pour permettre le passage de la Grande Boucle. En tout, 200 véhicules pour la 14e étape du Tour de France arrivée à Lyon samedi et 150 autres pour la 15e qui partait de Gerland ce dimanche. Et parmi les 350 véhicules enlevés, 22 motos et même 37 vélos. Les Lyonnais ont été fort nombreux à être surpris de ne pas retrouver leur véhicule hier à leur retour de week-end. La ville de Lyon avait pourtant beaucoup communiqué et en amont sur les restrictions de stationnement. Enfin, victime d'un léger accident de la route, Thiago Mendes ne figure pas dans le groupe de 19 joueurs retenus pour le déplacement à Montpellier ce soir à 21h. Jeffrey Adélaïde toujours en soins après s'être blessé avec les espoirs et Bertrand Traoré en instance de départ pour Aston Villa ne sont pas non plus du déplacement de l'Olympique Lyonnais. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure, même antenne. Bonne journée à toutes et à tous.